Slime. Émission 5, Rideau. Le 8 mars, comme chaque année, c'était la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. L'occasion de faire un état des lieux d'où en est l'avancée de l'égalité dans les genres, entre les genres, et de se rendre compte que les combats sont loin d'être gagnés. Il y a tant de changements à faire dans la société pour tendre vers un monde plus juste envers les personnes victimes de discrimination. Et une des manières de transformer la société, c'est à travers l'art. Toutes les représentations doivent changer afin de mettre fin au comportement discriminatoire et afin de permettre à toutes et tous de pouvoir évoluer sans crainte et sans contrainte dans leur milieu respectif. C'est le cas pour tous les arts qui ont une histoire très ancienne, que ce soit la littérature, le cinéma ou le théâtre. Notre spécialité à nous, ce sont les comédies musicales, et aujourd'hui, dans Slime, on vous parle de la place des femmes dans l'histoire et le milieu de la comédie musicale.
Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale, un vendredi par mois à 19h, sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Slime, l'émission qui vous donne vraiment envie qu'elle gagne en popularité pour pouvoir se payer un pro shot. Je suis Gauthier et je suis bien confortablement installé dans le box royal. Sur le côté, donc on ne voit pas la moitié de la scène, mais on peut se pavaner devant tous les autres. Avec pour m'accompagner dans le fauteuil à ma gauche, Ange. Salut Ange.
Salut Gauthier.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous faire part de mes réflexions sociologiques très très profondes. Vous allez voir, ça va être super.
On a hâte de réfléchir et de gamberger avec toi. Et on retrouve juste après dans le fauteuil à ma droite, il y a Élise. Salut.
Hello.
Et toi, de quoi nous parles-tu ce mois-ci ?
Eh bien, je vais vous parler dans l'historique de la comédie musicale et du théâtre. Voilà comment sont représentées les femmes.
Et bah super. Et en fin d'émission, nous recevrons par téléphone Sephora Heyman et Louise Bjejovska-Dudek du collectif MeToo Théâtre, qui s'est engagé en faveur de la lutte contre les violences faites notamment aux femmes dans le milieu du théâtre. Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale et où vous avez la chance pour une heure seulement d'avoir l'original Paris Cast, c'est parti. Et tout de suite, c'est Élise. Donc Élise, tu nous parles de quoi ?
Je vais vous faire un petit résumé de comment on perçoit les femmes dans la comédie musicale en termes d'écriture. Et d'ailleurs, à ce sujet, voilà, j'avais une nouvelle terrible à vous annoncer. Ça va être dur, préparez-vous. Je suis une femme.
Voilà. Mais non.
Ouais, je sais, c'est terrible. Donc, c'est dramatique, hein. Voilà. Du coup, vous en doutez bien, j'ai tendance à un peu plus m'identifier, de manière logique, aux femmes dans les médias que je consomme. Voilà. Et pourtant, parfois, je regarde les personnages féminins dans la comédie musicale. Et je suis, comment dire... Et c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est vrai que je me suis sentie à plus d'une reprise laissée perplexe à la fin d'un spectacle, un petit goût dérangeant dans la bouche. En fait, voilà, j'ai du mal à y croire. C'est pas vraisemblable. Je me monte peut-être la tête, mais j'ai vraiment cette impression. Et ce qui me met mal à l'aise dans cette histoire, c'est que les personnages féminins sont quasi systématiquement catégorisables. Bon... par exemple, si vous êtes un personnage féminin secondaire, déjà force à vous, je vous annonce que vous allez forcément cocher une case parmi cette liste, moche, débile, vieille ou drôle. Voilà, et ça sera sûrement l'entièreté de votre personnalité. Et alors, si vous avez été touché par la grâce divine et que vous faites partie des rares élus à être un personnage principal, alors vous tomberez à 95% dans une de ces deux catégories, la demoiselle en détresse ou alors la femme forte et indépendante. Et voilà, c'est tout. Alors... évidemment, ça reste de l'expression scénique. Le théâtre, ça réside un peu, je dois l'admettre, sur l'exagération, l'appui des traits, des stéréotypes, etc. Mais peut-être est-ce moi ? J'ai l'impression que les boîtes sont pas aussi fermées chez les hommes. Et les limites des cases un peu plus floues. Et ça mérite ! J'ai un gros souci avec ce manque de nuances et les personnages féminins presque interchangeables. Et aussi, comment ne pas être dérangée face à toutes ces femmes, cette femme écrite terriblement victime du male gaze. Alors, je vous fais la définition rapide hein, du male gaze, notamment pour ma maman qui nous écoute et qui ne va pas comprendre ce que je raconte. Le male gaze, notamment quand on parle de l'écriture d'un personnage, ça va parler d'une vision masculine. Voilà, du regard évidemment très masculin qu'un homme, souvent auteur, a porté sur le personnage qu'il écrit. Exemple, ça se voit que ce personnage féminin a été écrit par un homme, trop chiant le male gaze. Voilà. Ça, tellement de personnages en font les frais. Évidemment, nos chères demoiselles en détresse, hein, nos Disney girls, les jeunes premières, frêles et innocentes, et ne rêvant qu'à l'amour d'un homme, à être arrachée de sa situation par ce grand sauveur, et que ça finisse bien ou mal pour elle, ça reste le même archétype. Voilà, on pense à cette pauvre Maria dans West Side Story, qui regarde les hommes autour d'elle faire des décisions absolument catastrophiques en son nom. Voilà. Ou alors toutes ces femmes brisées dans Les Misérables, hein, qui ne cesseront de ressasser leur amour pour un homme incompétent. Parce que comment passer à autre chose? Il était si nul, c'était si parfait. Oh là là, ça me désole. Et si vous pensez que les femmes fortes et indépendantes, même plus âgées, sont épargnées par ce stéréotype dans la comédie musicale, vous vous fourvoyez, messieurs dames. Hello Dolly, par exemple. On en a déjà parlé, hein, dans quelques émissions avant, mais cette femme extravagante, indépendante, patronne et entremetteuse, voilà, qui tient les ficelles, voilà, de son business, qui à la fin trouve l'épanouissement quand elle épouse un vieux mec grincheux, voilà, avec lequel elle n'avait aucune alchimie préalable, hein, soudainement, et dont elle tombe, voilà, subitement folle amoureuse après tout ce temps à le mépriser. Mais vous voulez que je me tue devant vous? Ou même Mamma Mia, par exemple. Hein. On n'y pense pas assez souvent, mais Donna, c'est une mère solitaire, en difficulté, et dont tous les problèmes sont résolus. Voilà, on est tous heureux quand elle épouse son amour de jeunesse qui s'était barré avec une autre. Mais pitié, mais c'est terrible de raconter ça quand on y pense. Pourtant, je suis pas une hateuse de Mamma Mia. Hein. Et vous savez quoi? Des histoires comme ça, on peut en avoir. Voilà, c'est mignon des fois, un peu de grand amour salvateur et de baume au cœur, comme dans un film de Noël. Le problème, c'est que c'est systématique. La résolution finale, c'est toujours devenir la femme d'un homme. Et d'ailleurs, en y pensant, si tout ceci n'est pas assez terrible, il y a les femmes tellement objectifiées et sexualisées que je commence à crisper mes mains en agrippant mon siège devant, au point d'imprimer l'empreinte de ma paume dans le revêtement. Voilà. Alors, peut-être avez-vous fait partie des nombreux spectateurs qui ont été voir le spectacle Les Producteurs au Théâtre de Paris. Je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas passé un mauvais moment devant. J'ai même ri, oui. Oui, je me confesse, je n'ai pas détesté, loin de là. Mais face au personnage de Oula, que vous avez entendu gémir, hein, d'ailleurs, en fond actuellement, une jeune Suédoise magnifique, aspirante actrice, qui devient la sexy secrétaire des personnages principaux pour au final se mettre à draguer l'un d'entre eux très frontalement avec son accent sexy suédois. Ouh ! Mais comment ne pas serrer ? Comment ne pas se sentir un peu déçue en sortant ? Mais... tout n'est pas perdu. Non, 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 mesdames, relevez-vous. L'espoir n'est pas mort, parce que malgré les apparences, il existe des personnages féminins bien écrits. Oui, c'est promis, je vous le jure. Et comment ne pas parler de ma chère et tendre... Oh oui, vous le sentez venir, oui, j'en parle tout le temps. Elle Woods, personnage principal de Legally Blonde, en français La Revanche d'une Blonde, un film adapté en comédie musicale en 2007. Elle Woods, c'est une jeune fille, blonde, idéaliste, fan de mode avec son gang de copines, qui s'habille tout en rose et qui se fait larguer par son mec parce qu'il part faire du droit à Harvard et qu'il décide qu'il veut une meuf plus sérieuse. Voilà. Bon, jusque-là, on part d'un postulat qui pourrait être assez décevant, mais Legally Blonde ne nous déçoit jamais. Du coup, elle veut pas accepter la rupture. Elle décide d'étudier à fond pour, au lieu de faire de la mode, faire du droit et rentrer à Harvard elle aussi, pour aller prouver à son mec qu'elle vaut le coup et qu'elle aussi, elle peut être une fille sérieuse. Voilà. Et elle est acceptée parce qu'elle est trop forte, slay comme on dit. Mais lors de son parcours, elle va se prendre de passion pour le droit et se rendre compte qu'elle vaut mieux que cet homme nul et qu'elle est plus maligne que ce qu'elle se laissait elle-même penser. Et même si à la fin... effectivement, elle tombe amoureuse d'un autre garçon qu'elle a rencontré là-bas. La finalité, ça n'est pas ça, mais bien le fait qu'elle a appris sa propre valeur sans avoir à abandonner son identité toute rose, toute paillette. Et devinez quoi ? Les scénaristes, c'est des femmes ! Trop, trop, trop bizarre ! D'ailleurs, si je peux me permettre, quand je suis allée sur la page Wikipédia du film, le producteur, qui est un homme, et le réalisateur, ont une page Wikipédia, mais pas les trois scénaristes qui sont des femmes. Voilà, ça on adore.
Yes !
Let's go !
On adore. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes un homme, vous n'avez pas le droit d'écrire des personnages féminins ? Est-ce que ça sera forcément à côté de la plaque ? Peut-être bien que oui. Mais, vous savez quoi ? On peut écrire en étant épaulé par des personnes concernées. Voilà, on n'est pas obligé de tout faire tout seul en pensant qu'on a la vision parfaite et réelle. Je pense à Compagnie, une comédie musicale de Steven Sondheim de 1970, où on suit Bobby, un homme en pleine crise de la trentaine. Entre ses amis tous mariés dont il voit les couples dysfonctionner et la pression sociale qui lui hurle de trouver une partenaire avant qu'il ne soit trop tard, il se questionne sur toutes ces relations, toutes ces questions d'amour. Est-ce que c'est ça la finalité d'une vie? Est-ce qu'il a envie de ça? Est-ce qu'il est prêt? Le tout dans un spectacle sans vraiment de chronologie précise, où on revient toujours au jour de ses 30 ans. C'est très cool, compagnie, on adore. Et à la surprise générale, en 2018, Bobby est devenue une femme. Et ça a donné un immense coup de neuf au spectacle. Marry me a little, love me just enough. N'est-ce pas bien plus actuel? Une femme qu'on pousse vers l'amour comme si c'était la solution ultime à tous ses problèmes. Le fait qu'il faille le faire vite avant de devenir une vieille fille, avant que l'horloge biologique la rattrape, avant qu'elle devienne indésirable. Et cette adaptation est très juste. Steven Sondheim l'a fait lui-même, et c'est d'ailleurs la dernière chose dans laquelle il a travaillé avant qu'il nous quitte en 2021. Et dans cette histoire, il a été poussé et épaulé par Marianne Elliott, metteuse en scène, qui insistait sur le fait que c'était une excellente idée. Voilà, très lourdement insisté. Bravo Marianne, merci pour tout. Comme quoi, messieurs, ça n'est pas peine perdue. Et oui, je vous le dis, gardez espoir. Si vous écoutez un peu la voix des femmes, peut-être qu'un jour, vous aussi, vous saurez trouver la justesse dans les mots que vous leur faites dire sur scène. Et en pensant à ça, mes chers amis de Slime, j'ai envie de vous poser une petite question. Est-ce qu'il est trop tard pour les autres? Hein? Les choses déjà écrites, déjà mal écrites, les femmes déjà ratées dans les spectacles. Est-ce que c'est trop tard pour les rattraper, à votre avis?
Eh ben, il y en a pas mal, hein, des femmes ratées.
Oh
oh oh, on sait exactement où on va. Hein. Je pourrais parler d'un de mes films préférés de tous les temps, qui s'appelle Mean Girls.
Surprise.
Voilà, mais on a eu quand même une belle évolution sur Mean Girls. Parce que dans la dernière adaptation du genre, Regina George, interprétée par Renée Rapp, a été totalement revisitée. C'est plus cette espèce de Barbie très pétasse, qu'on adore bien sûr. C'est encore autre chose, c'est une Regina beaucoup plus froide. Et Renée Rapp, dans une interview, a dit elle-même en fait, qu'elle la voyait, qu'elle la considérait comme lesbienne. Ce qui peut être très étonnant, étant donné l'abondance d'hétérosexualité dans Mean Girls, hein, bien sûr. Mais si on essaye d'approcher ça d'un autre point de vue, si on imagine par exemple, je sais pas, que en fait Regina a peut-être un petit crush sur Katie, et que plutôt que d'essayer de l'éloigner d'Aaron parce qu'elle veut garder Aaron pour elle, peut-être qu'en fait elle veut l'éloigner d'Aaron pour garder Katie pour elle.
Oui, c'est vrai. Et puis, il y a toute la question peut-être de l'hétérosexualité un peu compulsive pour se convaincre
bien sûr,
qu'on n'aime pas les femmes. Mais ça, je trouve que ça a été vraiment cool de voir Mean Girls comme ça parce que, en fait, de base, c'est quand même genre des meufs qui se battent pour un mec très, très peu remarquable, hein, quand même, dans l'idée. C'est un peu terrible. Je pense aussi à Eddie Stone. Alors, c'est pas c'est une réécriture d'un mythe où vraiment Eurydice est assez sans saveur, hein. C'est juste la muse ouais. Orphée qui pousse Orphée à faire toutes ces choses héroïques. Mais en vrai, Eurydice, je sais que vous êtes des grands fans de Eddie Stern.
Oui, oui, oui.
comment s'en cacher?
Mais Eurydice, elle a vraiment du cachet, quoi. Elle a pas peur de faire ses décisions. C'est elle qui décide, bah tant pis, elle ira en enfer parce que ce con de Orphée, il écoute rien. Donc voilà, c'est plus qu'une personne morte tragiquement. Elle a fait ses propres choix et...
Et on est au-delà de l'image de la muse qui a été d'ailleurs, qui est une image très très controversée, à juste titre, la muse d'un artiste. Elle est belle, elle existe pour son corps, pour toute cette inspiration qu'elle peut apporter à son artiste. Mais quand on remet les choses en question, je me permets une toute petite digression, et ensuite on enchaînera, promis Gauthier, ne t'inquiète pas. Mais on reprend peut-être les muses de Picasso. Picasso a volé le travail de ses muses, peut-on le rappeler?
Gros nul.
Gros nul Picasso.
Énorme image misogyne, l'image de la muse, et je tiens à le rappeler ici.
C'est bien réel. Après, je pense qu'il y a quand même des spectacles qui sont irrattrapables. Hein. Je pense par exemple à cet affreux Nine, qui est genre juste un mec qui s'est écrit un harem à lui-même. Et toutes les femmes le désirent, mais lui, non, il doit écrire un film, je suis un artiste torturé, mais dame, arrêtez de me désirer, pitié. Et après, il y a sa mère qui vient lui dire, tu vas mourir, Guido, et après, il meurt. Voilà,
c'est un très bon résumé.
c'est horrible.
Mais merci Élise pour cette overview de tout ça. Avant de continuer, on va écouter une petite musique qui vient de Compagnie, c'est ça?
Exactement.
Qu'est-ce qu'on écoute?
Nous allons écouter You Can Drive a Person Crazy de Compagnie, de la version de 2018, donc avec des genres changés, parce qu'il n'y a pas que Bobby qui a été changé de genre. Voilà. My life is totally prepared for a gigantic change right now. I'm genuinely ready to be married. Right, then why aren't you? Right. 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 Right.
You could drive a person crazy, you could drive a person mad, ba-da-da. First you make a person feel all hazy, so a person could be had, ba-da-da. Then you leave a person dangling, sadly, outside your door, which it only makes a person gladly want you even more. I could understand a person if she said to go away, ba-da-da. I could understand a person if she happened to be gay.
You think?
Do I know?
Nah.
But worse than that, a person that titillates a person and then leaves him flat is crazy. She's a troubled person. She's a truly crazy person herself.
Dirty flirt.
You feminist.
I just don't understand.
Have time in a month.
When a person's personality is personable, she should not have sit in her butt. It's harder than a matador coercing a bull to try to get you out of your rut.
So single and attentive and attractive a chick is everything a person could wish. But turning off a person is the act of a chick who likes to pull the hooks out of fish. Knock, knock, is anybody there? Knock, knock, it really isn't
fair.
Working all my
working all my
working all my knock knock, a zombie's in my arms. All that sweet affection, what is wrong? Where's the loose connection? How long, oh Lord, how long? Bobby, baby, Bobby, 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 you could drive a person frantic. You could blow a person's cool. Like you get a person all romantic while you make him feel a fool. But when a person says you just don't get her, that's when you're good. You impersonate a person better than a zombie should. I could understand a person if she wasn't good in bed.
She's good.
No shit.
I could understand a person if she actually was dead. Ba-da-da-da, exclusive you, elusive you. Will any person ever get the juice of you? You're crazy, you're a troubled person. You're a moving, deeply maladjusted, never to be trusted, crazy person. Yourself. Bobby is my hobby and I'm giving it up.
C'était You Could Drive a Person Crazy de Compagnie, la version de 2018 avec les rôles, les genres changés.
Exactement, tu as tout compris.
Dans Slime sur Radio Campus Paris.
Slime. Un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Tout de suite, on retrouve Ange. Tu nous fais part de tes réflexions profondes sur la sociologie et la philosophie. Tu m'as dit des trucs comme ça. Moi, je suis curieux d'écouter.
Mais toujours, mon cher Gauthier, toujours. Bon. Je vais entrer dans le vif du sujet avec une question. Pourquoi, messieurs, dames, est-il si difficile de se faire un nom dans la comédie musicale quand on est une femme ? Des idées ? Quelqu'un aurait une piste, peut-être ?
Le sexisme dans la société.
Mm-hmm.
Être une femme, deux points, c'est un problème.
Mm-hmm. Eh bien, je vais tenter de répondre à cette question grâce à un travail d'investigation intensif. En gros, c'est le patriarcat.
Eh oui,
c'était ma deuxième
étonnant,
réponse.
Étonnant, n'est-ce pas?
Si proche.
Merci à tous de m'avoir écouté. Ah pardon, on me dit dans l'oreillette que je dois développer. Ok, ok. Nous vivons dans une société dirigée par les hommes. Qui sont les personnalités politiques influentes du moment? Des hommes. Qui sont les multimilliardaires à la tête du monde économique? Des hommes. À la question... Qu'est-ce que la comédie musicale ? Que répondriez-vous ? Que c'est un art mêlant le chant, la danse et le théâtre ? Que c'est un superbe loisir qui propose de très chouettes playlists à écouter en boucle ? Eh bien, je ne vais pas vous contredire sur ce coup-là. Par contre, je vais rajouter que c'est un business. Ça y est ! On y est ! Vous comprenez où je me dirige ? La comédie musicale grand public ? Professionnellement parlant, ce n'est pas un petit cocon tout mignon dans lequel les artistes peuvent évoluer. Ce n'est pas particulièrement une safe place. C'est un business dont les rênes sont tenues par des gens fortunés qui vont produire tout cela. Des actionnaires, des producteurs, des mécènes, des gens qui sont pour la plupart des hommes. Car oui, pour la plupart, les gens fortunés sont des hommes. Je me suis permis d'aller récupérer quelques petites infos. Eh bien, Sachez que dans le recensement des milliardaires de 2021, c'est très précis comme recensement, hein, je me permets quand même, près de 90% sont des hommes. Quelle surprise, n'est-ce pas? J'en tombe de ma chaise. Bon, ici on ne parle pas forcément spécifiquement de milliardaires, mais vous comprendrez où je veux en venir. Le monde appartient à ceux qui ont l'argent. Et en l'occurrence, ce sont les hommes qui ont l'argent. La rhétorique est également vraie. Le monde appartient aux hommes et par conséquent, ils possèdent l'argent. J'ai pris le temps de vous faire cette explication un poil longue, mais je pourrais vous résumer la situation plus simplement. La comédie musicale répond au code de notre société. Et actuellement, la société est misogyne. La société discrimine selon le genre, l'orientation sexuelle, la couleur de peau et tout un tas d'autres critères. Mais personnellement, je n'ai pas vraiment envie de me contenter de cette explication. Déjà, dans un premier temps, étude de cas, reparlons un petit peu de Tumblr. Vous êtes ravis, je le sais. Tumblr, c'est un réseau social qui était très populaire dans les années 2010. Je vais mettre de gros guillemets autour de cette phrase, mais je le qualifierais de réseau fédérateur de communautés alternatives. Ou pour désigner ça plus simplement, un rassemblement de nerds, de geeks, de weebs. De tous les termes que j'utilise de manière très tendre, mais qui étaient utilisés à l'époque pour désigner les adolescents ou adolescentes avec un intérêt spécifique à ces niches, qui ont pu trouver leur bonheur grâce à Internet. Ah, j'aime tellement Tumblr. Et vous savez ce qui rentre parfaitement dans la catégorie intérêt spécifique à ces niches? Oui, vous savez, bien sûr que vous êtes, bien sûr que vous savez, vous êtes là pour ça. La comédie musicale. On en avait parlé plus en détail il y a quelques émissions de ça, mais... Autour de la comédie musicale, il y a une vraie communauté qui s'est construite. Essentiellement d'adolescentes et de jeunes adultes, mais aussi de personnes LGBT. Et ce n'est pas étonnant, parce que c'est un art où l'on a de la représentation queer, où on retrouve des héroïnes cool et badass, et ce depuis longtemps. On peut par exemple citer La Cage aux Folles, Kinky Boots, Rent, entre autres. Bon, comme toujours, l'homosexualité masculine est toujours bien plus présente que l'homosexualité féminine, hein. Mais on peut quand même parler de The Prom, comédie musicale dont l'héroïne est Emma, une jeune fille lesbienne et dont l'histoire tourne autour du harcèlement homophobe qu'elle subit au lycée. C'est actuel et factuel. Profitez un petit peu. Mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. En me perdant sur Internet, cherchant à trouver l'origine de ce lien entre Broadway et culture queer, je suis tombée sur des essais, des articles et des témoignages assez intéressants qui témoignent tous d'une chose. C'est culturel, presque traditionnel. La communauté queer a toujours eu un lien très fort avec le théâtre. Dans un essai intitulé « A Place for Us », publié par David A. Miller en 1948, oui, vous avez bien entendu la date, oui, oui. Celui-ci explique en partie qu'être homosexuel constitue à jouer un rôle, à porter un masque, et à ce titre, correspond parfaitement à une expérience théâtrale. Et même, on peut développer encore plus à partir de là. Le théâtre offre des rôles, la comédie musicale nous permet, ou plutôt, devrait nous permettre à tous et à toutes de jouer n'importe qui. Car sur scène, ce n'est plus le comédien qu'on voit, mais bien le personnage. Je vous fais part d'une petite réflexion personnelle que je me suis faite en allant voir la comédie musicale Operation Mincemeat. En très bonne compagnie, n'est-ce pas Gauthier?
C'est toi qui juges.
Nous avons dans cette pièce 5 comédiens qui incarnent chacun différents personnages, indépendamment de leur genre. On a des femmes qui jouent des hommes, mais également l'inverse. Et à aucun moment, la pièce ne nous incite à nous moquer de ce choix. En fait, on ne s'en rend même pas compte. C'est la magie de la convention théâtrale. Prenez-en de la graine, les producteurs. Et surtout, ça m'a fait du bien, mais ça m'a fait du bien de ne pas avoir le énième gag de « Oh, ce personnage présenté comme une femme, mais la blague, c'est qu'il est joué par un homme, rigoler dans le public !»
Hilarant.
Et on rigole. Ha ha. Super. On en a marre, en fait. On en a marre d'être des blagues. Les personnes queer en ont marre d'être des blagues. On en a marre de voir la féminité être perçue comme quelque chose de dégradant aux yeux des hommes, aux yeux de la société tout entière, en réalité. Il y a la petite bulle du monde des arts de la scène dans laquelle évoluent les artistes et où, quelque part, une personne qui ne réussit pas à rentrer dans le moule peut se sentir libre de jouer comme elle en a envie, d'être comme elle en a envie. Et à l'extérieur, tout le monde regarde, parfois d'un œil admiratif, parfois moqueur. Et vous savez quoi? Là, je viens de vous parler des liens entre la communauté queer et le monde du spectacle. Mais vous vous souvenez de ce dont j'ai parlé au début? Le business de la comédie musicale?
Eh bien, à l'heure actuelle, il est plus difficile d'entrer dans ce monde à titre professionnel si l'on est une femme, et d'autant plus une femme queer. On vous donnera plein d'explications différentes, bien sûr, que le milieu est bouché peut-être, qu'il y a trop de profils similaires aux vôtres, ou bien qu'encore que votre profil ne correspond pas aux exigences du spectacle. Et ce sera peut-être le cas. Mais on va pas se voiler la face. L'envers du décor est rongé par la misogynie, l'homophobie, la transphobie, le racisme, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas les artistes qui régissent ce monde. Ce sont les gens fortunés. Alors, c'est le moment de créer nos propres spectacles, nos propres productions. Si le monde ne veut pas de nous, eh bien, peut-être que nous pouvons créer notre propre monde. Ça semble difficile et hors de portée, mais ça existe. Il y a des troupes, des collectifs et des spectacles qui se montent dans ce but. Et même d'un point de vue grand public, Six, par exemple, hein, qui continue de cartonner à chaque représentation, comédie musicale entièrement féminine, témoigne de cette volonté d'avancer et de faire changer les choses. Mais il va vraiment falloir s'accrocher, car la route est semée d'embûches et la lutte n'est jamais finie.
Merci beaucoup Ange pour cette chronique et cette note d'espoir, on espère.
On espère.
On va continuer cette émission, mais juste avant on écoute une musique. Qu'est-ce que tu nous as choisi ?
Je vous ai mis, et tu vas être ravi mon cher Gauthier.
J'ai vu le titre.
Je vous ai mis All the Ladies de Operation Mincemeat.
I was a girl, they thought I was crazy, 'cause I wasn't gagging for a man and a baby. I set my sights on joining the Navy, but this isn't the right kind of life for a lady. Okay, guess it's a no-go, take my double X chromosome and go home, I'm stagnant. Cook clean and sweep the grate and just wait till somebody wants to procreate. But wait a minute, what's that sound? War drums coming, getting so loud. And all of the men folk are like,
there's a fight,
want fun,
grab a gun, come on, there's a war to be won.
That they're overseas, creating job vacancies. It's plain to see the way to get from A to C for us is filling up the factories. And so let's go roll up our sleeves and show our expertise. No more running side saddle, it's time for our battle to start getting the system.
Ripping apart all the ladies, on your marks get set. Take this war for all you can get. It's conflict's our best opportunity. Now the coast is clear and it's time to move on up.
Ladies, what on earth is all this noise? Just be sensible, for goodness sake. And just pipe down.
Pipe down.
Settle down.
Settle down. Only thing that's coming down is the walls, 'cause all the men said down. And it's our turn now, and we're gonna grab life by the
language, if you please.
Sorry, matron, but I'm sick of sitting, waiting. So if there's a job going spare, I'll take it.
Just gotta wait for a guy to die and vacate it.
Go.
Now it's time to crush that party.
Go.
We're not gonna back down now, are we?
Go.
Be a spy.
Robin Day Mazahari, rise from the bottom to the top, we're an army.
C'était All the Ladies, extrait de Operation Mincemeat, la comédie musicale qui a originé à Londres et qui est en train de cartonner à Broadway, qui a été même extendue pendant un an. Voilà, donc incroyable. Bravo à tous les gens qui font ça. C'était donc All the Ladies dans Slime sur Radio Campus Paris.
Slime, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, nous recevons par téléphone Sephora Heyman et Louise Bjejovska du DEC, deux membres du collectif MeToo Théâtre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que pour commencer, vous avez créé ce collectif en 2021, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé ?
Alors le collectif, il s'est créé mais avec le lancement du hashtag MeToo Théâtre. On a reçu beaucoup de témoignages. On a aussi décidé d'écrire une tribune dans Libération, avec plusieurs propositions, une tribune qui est toujours accessible en ligne.
On a fait une manifestation, donc place du Palais Royal, et pour cette manifestation, on avait fait un appel à auteurs, autrices, pour pouvoir alimenter cette journée de lutte de textes et de témoignages, voilà, des personnes qui se sentaient concernées par ce mouvement. Et ces textes ont fait ensuite l'objet d'une publication dans un livre qui s'appelle #MeTooTheatre, qui est paru chez Libertalia. Suite à ça, on a décidé aussi de créer une pièce de théâtre qui s'appelle Les Histrioniques, pour essayer d'allier nos outils, enfin de créer notre lutte, d'inscrire notre lutte dans d'autres, avec d'autres outils. Et donc en fait, depuis 3 ans, essentiellement, ce qui est important, c'est qu'on est devenu un peu un cadre de référence pour les personnes qui subissent des violences dans le milieu théâtral, culturel, et qu'on accompagne des victimes. On est en lien avec les institutions, qu'elles soient les directions ou les tutelles, enfin le ministère. On essaye de créer des outils et d'identifier les défaillances qui existent et qui empêchent en fait la reconnaissance de la violence et qui permettent à la violence de continuer à s'exercer, ce qui est le cas encore aujourd'hui. Et voilà, on essaye à la fois de soutenir les victimes et de leur donner des leviers, et à la fois de créer des outils pour enrayer cette violence.
Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes, par exemple, rencontré, votre parcours, comment vous êtes retrouvé dans le milieu du théâtre, quels ont été vos parcours personnels en somme?
De manière générale, en fait, les personnes qui se retrouvent c'est-à-dire que d'un point de vue militant, les personnes qui se retrouvent à être en lien plus ou moins avec MeTooTheatre, que ce soit à l'endroit de la création du mouvement ou que ce soit à l'endroit du besoin du mouvement, vraiment, c'est très, très, très large. C'est-à-dire que ça vient de partout. C'est tout type d'âge, tout type. Alors, en termes de genre, on est quand même plus sur des femmes et des filles cis, mais il y a aussi des personnes non-binaires ou des personnes trans, mais il y a moins d'hommes qui nous contactent pour des violences qu'ils ont subies.
Et ce qui est vrai, c'est que quand on s'est retrouvés dans ce salon, on se connaissait toutes de plus ou moins loin. Il y en a certaines qui avaient travaillé ensemble, il y en a d'autres qui se connaissaient lointainement, mais on avait toutes déjà dans nos pratiques, on avait toutes des pratiques féministes, quoi, ouais. Même dans nos créations. Ça prenait, enfin voilà, c'est déjà important pour nous toutes. Je crois que ça, c'est le cas encore de toutes les personnes qui militent activement au sein de MeTooTheatre.
Je dis souvent que je n'ai pas subi de violence dans le cadre de mon travail, et que c'est pas parce que j'ai un parcours personnel qui m'a amené à cette conscientisation. C'est vraiment une espèce de révolte, en fait, d'analyse, en fait, de mon propre parcours à l'endroit aussi de la sexisation, pas seulement de la violence, mais l'endroit de l'expression de ce que j'étais, parce que j'ai commencé comme actrice. J'ai commencé à tourner quand j'avais 13 ans des films, et j'ai toujours voulu être actrice. Et en fait, les endroits où on m'identifiait, les endroits d'expression que j'avais sur le plateau, c'était toujours des endroits qui étaient très restreints, qui étaient des endroits d'une expression du féminin qui était très injonctionnant et qui était très limitant, et que j'ai petit à petit réussi à l'identifier, mais que sur le moment, je ne l'identifiais pas du tout, et je me satisfaisais grandement de ce qu'on m'offrait. Et que petit à petit, j'ai ressenti le besoin d'être maîtresse de mes propres récits. C'est pour ça que je suis devenue metteuse en scène, autrice. Et que c'est ça aussi qui m'a emmenée à ma conscientisation féministe et qui m'a amenée à rencontrer ces femmes incroyables auprès de qui je lutte.
Et moi, je dirais que c'est presque le parcours inverse, parce que finalement, c'est d'abord ma conscientisation, elle s'est faite surtout en tant que metteuse en scène, c'est-à-dire en tant que porteuse de projet. Quand j'ai commencé, j'étais assez jeune. Et c'est vraiment la question de la considération qui m'était pas forcément donnée. J'ai commencé en binôme avec un homme, et puis très vite on s'est dit qu'il fallait faire attention, parce que moi souvent je disparaissais un peu des questions quand il s'agissait de production, ou dans les discussions avec les programmateuristes, on voyait bien que l'intérêt était porté plus à l'homme en plus âgé que moi. C'est comme ça que petit à petit les mots se sont ont été mis en fait sur ce qui se passait, et puis aussi dans les salles, plein de moments où parfois on parlait à mon assistant, en fait, qui était en fait juste un homme, mais qui n'était pas lui le porteur de projet. Mais ça, je pense que c'est arrivé à toutes les metteuses en scène, jeunes ou moins jeunes, en fait, ça arrive tout le temps. Et en fait, moi, le parcours, il a été inverse parce que c'est avec les filles des Histrioniques et avec Me Too Théâtre que j'ai eu envie de retourner sur un plateau de théâtre. En fait, je pense que je suis pas sûre que je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu ce mouvement et cet engagement. C'est vraiment un endroit où moi, j'avais pas envie d'être justement à la merci du désir d'un metteur en scène, en fait. Alors, j'utilise cette expression, mais à la merci du désir, parce que c'est vraiment les termes qui sont utilisés et qui sont en fait des termes qui sont pas adaptés. Et en fait, ce qu'on fait aussi avec Me Too Théâtre, avec les Histrioniques, c'est qu'on montre qu'on peut créer sur des plateaux, dans des endroits safe, et qu'on peut créer des spectacles qui sont artistiquement
intéressants, valides,
proposent quelque chose artistiquement.
Sans violence.
Sans violence, en fait. Et ça, je pense que, en fait, on se rend compte aussi dans les témoignages qu'on a, parce que quand on joue ce spectacle, on a beaucoup de témoignages de jeunes actrices, jeunes metteuses en scène, enfin bon, qui nous disent mais merci, parce qu'en fait, nous, on sort d'école et on a envie de créer comme ça. On avait peur de pas trouver comment faire, avec qui, etc. Mais en fait, c'est comme ça qu'on a envie de travailler et pas autrement, quoi.
Parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que quand on commence à lutter, à réfléchir dans un premier temps, on était sur les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du théâtre, qui sont la phase la plus la plus violente, la plus délétère, la plus dévastatrice. Mais tout ça, effectivement, s'insère dans un continuum. Et la chose, le mythe selon lequel la souffrance, l'art, le génie sont liés, qu'on travaille avec de la souffrance, que le génie, que l'intérêt d'une œuvre, qu'une grande œuvre nécessite quelques sacrifices, et qu'au final, on est bien au service de ça, parce que l'art, c'est plus grand que nous. Et nous, on est aussi dans cette idée de revendiquer que l'art n'est pas plus grand que les individus qui fabriquent cet art, ou qui le composent, ou qui en font partie, et qu'on est toujours plus du côté des gens que des œuvres.
On a évoqué justement le sujet des écoles. On entend souvent que ce type de violence est présent dès la formation, dans les écoles notamment de théâtre ou de comédie musicale. Pourquoi on arrive à s'intégrer dans ce schéma dès l'apprentissage, en fait ? On est enfermé dans un schéma où soit on s'indigne, soit on le reproduit. Et pourquoi on en est là, en fait, dès les écoles ?
Bah déjà, il y a plusieurs choses. Je pense que une des choses, c'est qu'on arrive à l'école en sachant, ou en ayant en tête, ou alors les pédagogues nous répètent que de toute façon les places sont chères et qu'il y a peu de places. Donc on a intérêt à se soumettre à ce qui nous est demandé, vraiment à être le ou la meilleure élève, en fait. Et ça, ce que ça veut dire, c'est aussi se soumettre à une pédagogie. Et on sait bien que dans le milieu des pédagogues de théâtre, c'est comme dans le milieu théâtral, mais c'est comme dans la vie en général, il y a des gens qui sont mal intentionnés, voire il y a des criminels, en fait, des personnes, que ce soit des pédocriminels ou des personnes qui sont des agresseurs, ou aussi de la maltraitance psychologique. Donc il y a cette question-là, il y a la question de la pédagogie. Qu'est-ce qu'on nous apprend, comment on nous apprend aussi à nous soumettre, c'est-à-dire à dire oui à tout ce qui nous est proposé.
Les places sont chères et on est dans un milieu extrêmement précaire où les conditions des artistes aussi sont souvent dans un état de précarité financière. Donc en fait, ce qu'on nous demande de faire, à l'endroit où on nous demande de faire, on s'y soumet aussi par nécessité, par obligation. Et il y a une infusion de la culture du viol globalement dans la culture pop et la culture classique en général, qui n'est pas interrogée. Donc, en fait, quand je parlais de sexisation tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, les rôles aussi, les positionnements, quand on travaille du théâtre classique, les grandes scènes et tout ça, on est aussi inséré dans des statuts de féminin qui sont des statuts qui portent en eux-mêmes de potentielles subordination, de potentielles situations d'infériorisation, d'infériorité, et que ces choses-là, elles sont pas mises au jour dans d'un point de vue progressiste, c'est-à-dire qu'en fait, on a figé les grandes œuvres, les relationnages entre les personnes dans ces œuvres dans des endroits de panthéon, de choses qui ne sont pas interrogeables, et que pour autant, ces modes de relation portent en eux-mêmes une problématique qui a des conséquences sur les individus qui vont les porter. Alors, c'est évidemment pas nécessaire, mais obligatoire, je veux dire, mais dans un grand nombre de cas, ça porte à ces rapports de domination et de violence. Et puis, la dernière chose, c'est cette idée selon laquelle l'artiste, le pédagogue, a un positionnement tout puissant qui a été aussi ces dernières années, au milieu du XXe siècle, abondé et aggravé par la position de la création du metteur en scène qui devient l'artiste suprême dans la création d'une œuvre, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque c'est une invention, la place du metteur en scène. Donc en reléguant l'auteur, les acteurs, les actrices, les techniciens, les techniciennes à un autre endroit qui est secondaire. Et donc cette place de toute puissance qui érige donne un pouvoir à la personne qui va nous enseigner, nous engager et qui va pouvoir en abuser évidemment, et qui va peut-être même utiliser cette position, enfin choisir cette position pour pouvoir créer de l'abus.
Et c'est pour ça aussi que c'est important dès les écoles que les jeunes personnes qui sont en formation envisagent le plateau non pas comme un endroit de soumission et de contrainte, mais plutôt comme un vrai endroit de liberté, d'expression de qui ils et elles sont au plateau, et puis vraiment un endroit sécurisé, c'est-à-dire un endroit dans lequel ils ont le droit de dire bah non, je fais pas ça, ça je suis ok pour le faire, mais en tout cas que ça soit en pleine conscience de ce qui est ok ou pas pour elles et eux de faire quoi. Et ça, je trouve que c'est une chose qu'on retrouve, je reviens encore à notre spectacle, mais en fait qui se sent, c'est-à-dire que nous on a créé en collectif avec des limites qui étaient les nôtres, avec des envies qui étaient les nôtres, et surtout on n'envisage jamais le plateau comme un endroit d'angoisse et d'inquiétude en fait, et c'est ça qui est vraiment important,
et aussi comme un endroit d'émancipation possible.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est inverser le rapport de pouvoir. C'est aussi dire l'endroit de ma soumission va devenir l'endroit de mon émancipation, parce qu'en fait c'est possible, et c'est aussi un outil de cohésion entre les personnes qui sont sur scène et qui fabriquent le spectacle, et aussi avec les personnes qui vont regarder ce spectacle.
Vous avez parlé de votre spectacle, Les Histrioniques, que vous avez joué récemment à la MP2A Saint-Germain. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous en parler? Quelle forme est-ce que ça a? Qu'est-ce que ça raconte?
Alors, le spectacle, en fait, c'est un spectacle qui va raconter et suivre le collectif. En fait, nous jouons nos propres personnages, et en fait, on suit six femmes qui ont créé le collectif MeToo Théâtre. Et donc, c'est qu'est-ce qu'elles vont voir, qu'est-ce qu'elles vont apprendre, elles vont suivre une affaire, donc une affaire de viol dans le milieu théâtral qui est une affaire fictive. On va petit à petit voir à quoi elles se confrontent collectivement et individuellement. Et en termes de forme, en fait, on a choisi de retranscrire au plateau comme le fil rouge du spectacle, notre conversation messenger, en fait, virtuelle, sur laquelle on a commencé à communiquer quand on a créé le collectif. On était sur Messenger, et en fait, c'est à la fois une conversation en direct et à la fois une conversation où on est dans des lieux différents. C'est un spectacle très ludique, très joyeux.
Et parallèlement à ce fil rouge, on a des scènes d'incarnation. Des scènes où on joue, où on s'amuse à jouer des personnages qui sont terribles, qui sont l'agresseur, et avec toutes les justifications qui peuvent exister, qui sont en fait, nous on a juste eu à chercher dans les tribunes de ces personnes qui étaient accusées pour écrire ces personnages, et en fait quand on les met au plateau, tout à coup ça devient tellement énorme, on se rend compte de ce qui a pu être dit, et on se demande vraiment comment on a pu laisser passer ce genre de mots, de paroles, enfin de positionnement incroyablement néfaste en fait. Et en plus de ça, on a une troisième chose qui est qui sont des manifestes. En fait, chacune, on a un moment d'écriture en fait, enfin
de prise de parole.
De prise de parole, voilà, qui a été un moment d'écriture pour nous avant et où on défend, on dit des choses qui sont vraiment importantes pour nous et qui sont politiques à différents endroits en fait.
C'est une dramaturgie croisée et quand je disais c'est drôle et tout ça, en fait, on avait en fait, comme on joue à jouer les agresseurs, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours la couche de nous jouant à ça, qu'on n'oublie jamais et qui nous permettent aussi de se réapproprier à la fois une forme de théâtralité, c'est-à-dire que en fait, les agresseurs, la plupart du temps, ils font du vieux théâtre. Ouais. Et donc, en fait, on reprend les codes de ce vieux théâtre-là pour s'en jouer et en jouer. Et du coup, voilà, on avait la volonté de, malgré ce sujet, de mettre aussi en scène notre joie à être ensemble, la lumière que ça nous apporte et d'essayer de mettre en scène cette lumière-là pour pouvoir la partager avec les gens qui vont regarder parce que c'est vrai que c'est souvent trash, c'est souvent violent, il y a ce qu'on vit, ce qu'on entend, le fait que ce soit si difficile de faire avancer les choses parce que les choses avancent quand même très très difficilement, c'est pas source vraiment de lumière, mais nous on voulait mettre aussi la lumière de qu'est-ce qu'on trouve sur le chemin de cette lutte.
Vous avez peut-être rencontré des obstacles dans votre parcours de par vos actions, de par votre engagement. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont mis au milieu de votre chemin?
Oui, bien évidemment, il y a des gens à qui, mais encore maintenant, il y a des gens à qui MeToo fait peur. MeToo, je parle de MeToo en général. Donc MeToo théâtre n'est pas différent des autres MeToo. Bien sûr qu'il y a des personnes puissantes qui ont écrit des tribunes contre nous. Bien sûr qu'il y a des gens qui, sur les réseaux, essayent de nous discréditer, de nous disqualifier. Bon.
De menacer.
Menacer, bien sûr. Bah, pour le coup, ça, c'est une chose qui est malheureusement commune à tous les mouvements militants féministes et à tous les MeToo. Enfin.
En fait, on a beaucoup eu ce discours qui tendait à nous disqualifier aussi dans la façon dont on parlait de nous et la façon dont on nous envisageait comme des personnes extrêmement radicales, extrêmement, donc évidemment, hystérisées. Je mets ça avec des énormes guillemets. Parce
oui, bien
que,
sûr, c'est quelque chose qu'on entend énormément.
Voilà, énormément. Et en fait, c'est vrai qu'en fait, on est des personnes extrêmement mesurées, extrêmement pragmatiques. On pèse chaque mot qu'on dit, chaque communiqué qu'on fait, on est dans une extrême dialectisation, une extrême conscience de toutes les problématiques qui existent. La seule chose qu'on dit, c'est qu'en fait, il ne faut pas violer les gens. Et je pense que ce n'est pas très radical comme position. C'est même absolument en accord avec la loi de notre pays et que en fait les obstacles qu'on rencontre sont des obstacles qui cherchent en permanence à complexifier un problème qui n'est pas complexe. En fait, on ne violente pas les gens et il n'y a pas de circonstances selon lesquelles on peut interpréter une violence comme étant autre chose. Donc en fait, qui a à perdre à faire en sorte que la violence n'existe pas? En fait, personne en vrai n'a à perdre à ça. Donc évidemment qu'on n'est pas idéalisante et naïve dans le sens où on sait très bien que la question de l'éradication de la violence, elle est extrêmement large et que tout ce dont nous on traite, c'est pas simplement dans notre milieu et c'est évidemment sociétal, étatique, mondial. Donc la problématique, elle est globale. Mais la conscientisation qu'on essaye d'éveiller et un outil comme le hashtag, c'est seulement ça. Hein, c'est l'outil du pauvre qui permet de communiquer avec tout le monde sur un éveil des consciences. En fait, cette chose-là, elle bénéficiera à tout le monde à terme, même à ceux qui tirent des privilèges de cette violence aujourd'hui. Parce qu'en fait, personne n'a à gagner à vivre dans un monde où des personnes sont subordonnées au profit d'autres. Et c'est la seule chose qu'on dit, en fait. Donc, quand on est en disqualification, d'hystérisation et tout ça, en fait, ça nous fait assez rire. Parce qu'en fait, je me dis, en fait, ces gens n'écoutent pas ce qu'on dit. Ces gens se sentent menacés par une chose qui est bloquée par une infusion d'une pensée globale qui est assez moralisante et universalisante, mais au détriment de la vie réelle des gens et de la violence réelle qui est exercée.
MeToo Théâtre, c'est dérivé de MeToo, le mouvement qui a été de prise de parole en 2017 face aux actions qui ont été révélées du réalisateur Harvey Weinstein. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir ce mouvement-là dans le monde du théâtre? Est-ce qu'il y a une spécificité au milieu du théâtre?
Pourquoi c'était nécessaire? C'était nécessaire parce qu'on voit bien, après avoir lancé le hashtag, qu'en fait, il y a énormément d'affaires et énormément de gens impliqués dans ces affaires et que tout ça circulait soit en sous-main, soit ne circulait pas. Donc, effectivement, c'était absolument nécessaire d'en parler et puis que ces gens soient confondés pour que, les agressions cessent et puis que ces personnes n'interviennent plus dans des écoles, par exemple. Enfin, ce genre de choses très concrètes, très pratiques. La spécificité du milieu du théâtre, c'est que les personnes de pouvoir qui sont souvent les agresseurs sont des personnes qui ont beaucoup de pouvoir sur les personnes impliquées, mais qui ne sont pas non plus des stars, quoi. C'est-à-dire que, ça, c'est une autre spécificité, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi pour ça que ça a commencé par le cinéma, c'est-à-dire que le tout venant ne connaît pas forcément le nom de ces personnes. Après, il y a la question de la précarisation aussi des victimes, parce que en fait, parler dans un milieu où il y a une mise en concurrence des actrices et des acteurs, parce que ça peut toucher aussi des jeunes gens, des jeunes hommes, de la mise en concurrence et de la précarisation, évidemment, ça fait peur. On se dit, moi, si je me fais agresser et que je parle et qu'après, je suis blacklistée ou que je peux plus travailler, qu'est-ce que je fais?
Et ça c'est la même chose dans le cinéma, la question du blacklistage, sauf que nous dans le théâtre le milieu est tellement petit que en fait les infusions, les confusions et ça vient très très vite, on peut les noms peuvent circuler très vite, cette peur elle est très grosse et grande et réelle et par rapport à ce que disait Louise sur le fait que nos agresseurs en fait ils sont puissants mais ils sont pas connus du grand public, ça fait que en fait la médiatisation est difficile parce qu'en fait ça n'intéresse personne de savoir que le directeur du petit théâtre de X petit ville, qui est hyper influent dans sa ville, mais que personne ne connaît et qui a fait des mises en scène qui sont finalement très confidentielles et qui sont dans une échelle relative. Donc du coup, il n'y a pas de médiatisation possible. Donc en fait, nos moyens de levier, ils sont petits. Ils sont plus limités, disons. Et donc ça, c'est une grosse spécificité. Après, les mêmes spécificités que dans le cinéma, c'est-à-dire l'art, c'est que c'est l'articulation souffrance et création et génie. Ça, c'est la même chose, mais c'est un peu une spécificité des milieux artistiques, quoi.
Bon, après, il y a la question des écoles, mais on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est que une autre spécificité, c'est que ça touche quand même des gens très jeunes qui travaillent avec leur corps.
Oui, il y a la question de la zone grise, ouais. La fameuse question de la zone grise qui nous est renvoyée, mais ça c'est dans le cinéma, c'est pareil. Mais le fait que comme je travaille avec mon corps et comme je travaille avec la question du désir, c'est-à-dire le flou du désir, d'ailleurs que Wajdi Mouawad a assumé et défendu dans son audition à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, la question du désir. En fait, quand on travaille dans ce milieu, quand on est metteur en scène, quand on est influent, quand on est directeur de lieu, quand on est directeur de compagnie, en fait, on a une responsabilité vis-à-vis des personnes qu'on emploie. On a une responsabilité aussi de lever les doutes, de lever le flou, et surtout aujourd'hui, lever les flous sur les confusions possibles et les espaces indéfinis dans lesquels on évolue. Parce qu'en fait, le cadre n'a pas à être indéfini. Il n'y a pas de zone grise. En fait, je travaille avec mon corps, les limites dans lesquelles je suis d'accord de flirter, de travailler, c'est-à-dire je suis d'accord d'embrasser, je ne suis pas d'accord de telle chose. En fait, toutes ces choses-là peuvent se décider en amont. Ma limite n'est pas la même que Louise, qui n'est pas la même que X et X personnes. Et les limites peuvent changer, et les limites peuvent évoluer.
Et en fait, ces choses-là, on les travaille, et on les travaille en fait en respect, en confiance, en conscience et en consentement. Et en fait, ça n'est pas compliqué. On veut toujours complexifier les choses en disant ah c'est vrai que c'est compliqué. Non, en fait, ça n'est pas compliqué. La limite, le viol, l'agression, le dépasser les limites, ça n'est pas compliqué. En formation VHSS, on explique que en fait, la drague lourde, ça n'existe pas. Oui. En fait, la drague lourde, c'est du harcèlement. Et en fait, ça, c'est aussi des choses qu'il faut apprendre en termes de légalité. C'est pour ça que, voilà, il faut former les gens, il faut qu'on s'informe, il faut qu'on se forme. Il est de notre responsabilité à chacun d'entre nous et à chacune d'entre nous de le faire pour essayer de comprendre que, en fait, on a en nous un certain nombre de biais qui confirment, qui valident des choses qui ne sont pas validables. Et ça, c'est... J'ai envie de dire, c'est OK dans le sens où c'est OK de le reconnaître et c'est OK qu'on soit formé comme ça, qu'on vive comme ça dans le monde dans lequel on est. Mais en revanche, cette chose-là, il faut travailler dessus et il faut surtout qu'on soit prête, chacun, chacune d'entre nous, à modifier et à faire évoluer cette chose pour le bien de tous et de toutes. On a énormément de toutes, hein, nous aussi, malgré notre implication, notre conscience des choses, on a beaucoup de peur et de limites à nommer des choses qu'on a le droit de nommer parce qu'on est infusé par une idée de la question de la présomption d'innocence, la question de la diffamation qu'on place à des endroits de la justice pénale à laquelle on n'est pas tenu, et que cette question-là, c'est bien de la mettre en exergue parce que c'est aussi ça qui construit et qui continue à faire peser une forme d'omerta à des endroits où en fait délier aussi, nommer les choses, nous, on a vachement de mal, des fois on est souvent invectivé par des personnes qui nous disent voilà, j'ai été agressée par quelqu'un, c'est quelqu'un de très important mais je peux pas vous dire,
ouais, bien
qui
sûr.
En fait, pourquoi tu peux pas nous dire qui, en fait, dans la mesure où on est dans une conversation privée et que rien ce que tu me dis, tu as le droit de me le dire, en fait. Et en fait, ces choses-là, en fait, j'en parle là parce que c'est des choses sur lesquelles chacune et chacun de nous, on doit s'interroger à l'endroit de ce qu'on nomme, comment on le nomme, où on le nomme et qu'est-ce qu'on a le droit de nommer. Voilà, parce que c'est aussi ça qui va faire changer les choses.
Après, chacun sa temporalité et puis
évidemment.
Chacun fait bien comme il peut dans...
Et parce que c'est aussi des injonctions qu'on a et qu'on se met et qu'on a... On est tous et toutes frileux à des endroits, indépendamment du trauma, de la sidération, de tout ça, qui est encore une autre chose et qui est évidemment un process.
On va terminer avec une dernière question. Tout simplement, est-ce qu'on peut vous soutenir dans vos actions? Est-ce qu'on peut peut-être vous apporter de l'aide et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça?
Eh bien, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Je les donne pas par ordre de hiérarchie, mais par ordre de... que ça me vient. Exactement. Alors, on a sorti un bouquin aux éditions Libertalia qui s'appelle #MeTooTheatre, que vous pouvez commander, que vous pouvez acheter. Il coûte pas cher, il coûte 10 euros. Ça peut vous permettre surtout de vous informer. Ça peut vous permettre aussi d'informer vos proches, de sensibiliser vos proches. Voilà, ça vaut le coup parfois de demander à ce que les théâtres l'achètent pour qu'ils traînent dans un coin du théâtre et que les personnes puissent en lire un petit bout de temps en temps. Si jamais autour de vous, il y a des gens qui ont besoin d'aide, vous pouvez leur donner, ou si vous-même, vous avez besoin d'aide, vous pouvez leur donner notre adresse mail qui est mouvementmetootheatre@gmail.com mouvementmetootheatre@gmail.com. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est de nous aider parce qu'on va lancer une cagnotte pour toutes les activités de MeTooTheatre. Elle sera en ligne bientôt.
Fin avril, début mai. Donc, de vous informer, restez informés sur notre Insta, on donne toutes les infos.
Absolument. Et puis après, il y a mille choses que vous pouvez faire, comme aller manifester, ne pas aller voir de spectacles qui sont... non, mais c'est vrai. Enfin, c'est aussi la responsabilité des spectateurs et des spectatrices de savoir ce que ces personnes vont voir, s'informer. Quand on voit qu'une programmation de théâtre n'est pas égalitaire, demander où vont les budgets de production aussi, comment cet argent est réparti. Enfin, en fait, il y a plein de moyens en tant que spectateur spectateur ou spectatrice aussi d'avoir son mot à dire, parce que ben, l'outil théâtre, le théâtre public, ça nous appartient à tous et à toutes.
C'est notre argent.
C'est notre argent, en fait, ouais, absolument.
Nous suivre sur Insta et de repartager nos communiqués, de voilà, donner de la visibilité aux communiqués qu'on fait, parce que voilà, c'est bien. On sera à Avignon cet été, on va jouer donc les Histrioniques au 11. Au théâtre 11, voilà, de venir, de voir le spectacle.
Et le livre aussi.
Les éditions
va sortir. Ouais, le texte vraiment de la pièce va sortir aux éditions Libertalia au mois de juin.
Merci beaucoup, Sephora Eman et Louise Bjejovska-Dudek, de nous avoir accordé
Merci
votre temps.
Vous.
Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, peut-être ?
On attend tout le monde, que tout le monde lutte à son endroit et que de se réveiller collectivement, c'est urgent à plein d'endroits.
On attend les alliés.
Ouais. Oui.
Voilà.
On attend les alliés, ouais.
Bah, merci beaucoup, en tout
merci
cas.
Merci énormément.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Slime, c'est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, on va écouter Mean Girls avec Worldburn.
My name is Regina George, and I am a massive deal. I will grind you to sand beneath my lubricant heel. This is what I get for helping someone. Regina George, this girl is a fugly cow. Hey, Katie, how you like me now? I wanna watch the world burn. I brought the gasoline. I wanna watch the world burn and everyone get near. I wanna watch the world burn. I got the gasoline. I wanna watch the world burn and everyone get near. Katie, time to watch your back.
C'était Worldburn de Mean Girls, la dernière version du film qui est sortie l'année dernière. Et c'est déjà la fin. de Slime, la 75e émission de Slime sur Radio Campus Paris. On vous remercie d'être resté jusqu'ici. On espère que les ouvreuses et les ouvreurs vous ont correctement indiqué vos places. Merci à Sephora Heyman et Louise Bjejovska du DEC pour leurs réponses à nos questions. Toutes les actions du collectif MeToo Théâtre sont disponibles sur Instagram et leur spectacle Les Histrioniques est en tournée, notamment très bientôt le 11 avril au Studio Théâtre de Stein. Et comme elles l'ont dit, elles seront à Avignon en juillet. Élise, tu avais un truc sur lequel tu voulais rebondir.
Ouais, un petit peu par rapport à ce qu'on a pu écouter avant qu'on termine. Je voulais aussi, enfin, il y a vraiment un double standard qu'on constate vraiment dans la comédie musicale avec voilà, des femmes qui doivent savoir tout faire en tant que comédienne, chanter, danser, être sublime, magnifique, maîtriser 5 styles de danse, faire des claquettes et pouvoir faire un grand écart en touchant leur dos sur le sol, voilà, bien après. Et en tant qu'homme, on peut se contenter d'être passable à peu près dans toutes les catégories. Donc voilà, mais on espère qu'on tend vers le mieux et puis qu'on pourra retrouver des spectacles qui essaieront d'aller aussi vers le meilleur dans ces idées-là.
Mais oui, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les producteurs et la mise à jour des choses, est-ce que toutes les œuvres ont vocation à être mises à jour aussi? Est-ce qu'on devrait se pencher vers les vieux trucs et dire bon, ça c'était nul, mais on va faire mieux? Ou est-ce qu'on devrait laisser ces trucs-là dans l'oubli parfois?
Oh, je pense qu'il y a des choses qui méritent de ne pas être déterrées. Je pense à mon humble avis pour le bien-être commun.
Ouais, mais je pense que c'est pas peine perdue pour tout le monde et j'espère qu'on tend vers le mieux avec des gens avec des bonnes mentalités qui montent des spectacles qui peuvent peut-être réussir à les sauver et à en écrire des nouveaux mieux.
Pour citer une grande philosophe, Elsa de la Reine des Neiges, le passé est passé.
Bien sûr.
Libéré, délivré.
Et ben, on espère que ça laisse une note d'espoir pour l'avenir. Donc Slime, c'est terminé. Mais avant de s'en aller, bien sûr, il n'y a pas que le théâtre dans la vie. Hein. Récemment, au cinéma, est sorti le film Dans la cuisine des Nguyen, une comédie musicale française réalisée par Stéphane Lee Kwong, qui raconte l'histoire d'Yvonne, une comédienne française d'origine vietnamienne, qui rêve de jouer dans des comédies musicales et qui se confronte à des difficultés pour trouver des rôles, à ne pas vouloir des rôles stéréotypes par rapport à ses origines. Et aussi, sa mère qui ne croit pas vraiment en ces projets. Et franchement, il y a pas mal de moments que j'ai trouvé intéressants et même qui m'ont touché. Si jamais vous êtes au hasard quelqu'un qui a envie de faire du théâtre de sa vie et que vous êtes déjà un peu dans ce milieu, je pense que ce film peut vous plaire. Slime, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiocampusparis.org, mais aussi sur toutes les applications de podcast, ainsi que sur Instagram @slime-rcp. Merci Ange.
Merci beaucoup Gauthier.
Merci Élise.
Merci à toi.
Et quant à nous, on se retrouve le vendredi 25 avril à 19h pour la prochaine émission de Slime sur Radio Campus Paris. En attendant, vous pouvez chanter et danser. Mais même, faites attention quand même à ne pas vous faire une rupture du tendon d'Achille une semaine avant votre date de spectacle. Ce serait quand même dommage. Salut.